vivre avec les bêtes.
Élisabeth de Fontenay.
Alain Beaugrain-Dubourg.
Bonjour et bon Noël à tous. Bonjour Élisabeth.
Bonjour Alain.
L'histoire commence, chère Élisabeth, alors que Christophe Colomb rapporte quelques dindes du Nouveau Monde. La première à passer de vie à trépas aurait été mangée, dit-on, par Charles VII. Lors d'un repas de Noël, il n'en fallait pas tant pour que l'oie, symbolisant jusqu'alors l'oiseau solaire et réservé à la nativité, soit éclipsée au profit de la dinde qui, aujourd'hui encore, doit s'accommoder de marrons et d'une bonne cuisson pour satisfaire à nos plaisirs du ventre. Ainsi, depuis hier et durant les fêtes de fin d'année, ce seront plusieurs centaines de milliers de dindes qui passeront à la casserole en confortant la France dans son rôle de deuxième producteur mondial. Mais nous n'avons pas le monopole de l'hécatombe, car aux États-Unis, chaque quatrième jeudi du mois de novembre, c'est la fête nationale du Thanksgiving, une fête qui vise à rendre hommage au ciel et aux Indiens. Et oui, aux Indiens, pour avoir permis aux premiers colons de s'installer sur le sol américain. Et à cette occasion, la dinde, toujours elle, doit trépasser. La seule différence entre l'Amérique et la France, dans cette affaire, c'est que le président américain sauve chaque année une dinde de l'hécatombe, tandis que le président français n'y songe même pas. Rassurez-vous, cela pourrait bien changer, tant il est vrai que les Américains ont toujours une longueur d'avance, dit-on, sur nos vieilles habitudes. En attendant, chère Élisabeth, qu'avons-nous au programme aujourd'hui ?
Alain Decaux qui répondra à la question « Le bœuf et l'âne étaient-ils dans la crèche ?» Et à propos d'âne, nous recevrons également Marinette Panabière, présidente de l'ADADA, l'Association nationale des Amis des Ânes. Quant à moi, je parlerai avec l'écrivain catholique Jean Bastère du rapport du christianisme aux animaux.
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du pain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches. Toi qui n'avais rien sur le dos, toi qui n'avais rien sur le dos, il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau. Il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras pas froid de sitôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. Tous les camés, tous les aimants, tous les camés, tous les aimants, il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux, il fit rouler en avalanche vers les rubis dans tes sabots. Il a mis de l'or à ta branche, il a mis les mains sur tes hanches. Tire la belle, tire le rideau, tire la belle, tire le rideau, sur tes misères de tantôt, sur tes misères de tantôt, et qu'au dehors il plave, il vente, le mauvais temps n'est plus ton lot. Le joli temps, tes coups de franche, on a mis les mains sur tes hanches.
We'll be right back. Nous sommes en 1854 et le gouvernement américain veut racheter les terres de la tribu des Suquamish avant de la conduire dans une réserve indienne. Le chef Seattle répondra à la proposition par un discours qui est devenu une référence du genre. Près d'un siècle et demi plus tard, j'avais demandé à Peter Ustinov de dire ce texte tout à fait remarquable, extrait des propos du chef Seattle par Peter Ustinov.
Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. La terre n'est pas sa sœur, mais son ennemi. Et lorsqu'il l'a conquise, épuisée, il va plus loin. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre, comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage et ne comprends pas. Je suis un sauvage et ne connais pas d'autre façon de vivre. J'ai vu un million de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes? Si tous les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme. Enseignez à vos enfants ce que nous avons toujours enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Et que tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes.
C'est un texte formidable.
Et une telle mise en question de notre rapport d'homme blanc à la terre, d'homme civilisé. On se dit, en entendant ça, que la terre ne devrait appartenir à personne. Et quelle condamnation de nos exactions contre la vie et les vivants, lesquelles exactions ne sont pas sans lien avec notre barbarie passée et peut-être encore présente envers les peuples dits sauvages.
L'animal magique. Alain Bougrain-Dubourg.
Il a une vingtaine d'années lorsqu'il publie ses premiers articles et sa plume ne le quittera plus tant il est obsédé par l'idée de raconter, de vulgariser l'histoire pour la mettre non seulement à notre portée, mais pour nous en rendre dépendants, passionnés comme lui. C'est ainsi qu'Alain Decaux, membre de l'Académie française, est devenu le porte-parole national des petites comme des grandes histoires de l'humanité. Parmi ces histoires, l'une d'entre elles s'impose aujourd'hui, en cette journée de Noël, l'histoire des animaux de la crèche. Alain Decaux, bonjour et merci,
bonjour,
très sincèrement, merci d'être avec nous. Alors, le bœuf et l'âne, légende ou réalité?
Bon, il faut peut-être rappeler que Marie, enceinte de 8 mois, est arrivée avec son compagnon, son mari, à Bethléem, parce qu'il y avait un recensement. Il arrive de Nazareth, ça fait 150 kilomètres. Et il est évident qu'elle n'a pas fait ça à pied. Elle était, je crois, j'en suis sûr, montée sur un âne.
Et oui, bien sûr.
Et cet âne l'a conduit jusqu'à une auberge de Bethléem, où il n'y avait pas de place. Donc, ils ont cherché une place, ils ont trouvé une étable où ils se sont installés, où c'est là que Marie va accoucher. Alors, il y a beaucoup encore de familles qui montent la crèche
à Noël,
le jour
oui,
de Noël. Et cette crèche, en général, prend la forme d'une grotte. Parce qu'on la prend en papier coloré, c'est plus facile de faire une grotte. Alors les gens croient que crèche veut dire grotte. Ben pas du tout. Crèche veut dire auge. Il y a dans une étable une auge où on met les nourritures des animaux.
Donc on est bien en proximité des animaux en principe.
Absolument. Oui. Alors dans cette étable, qu'il y ait un bœuf, ça n'est pas étonnant. C'est même normal. Alors, l'âne, il est là, comment savons-nous qu'il est là? Les évangiles n'en parlent pas du tout. Il faut attendre un évangile apocryphe. Il y en a eu beaucoup apocryphes à partir du deuxième siècle.
On rappelle ce que c'est?
C'est-à-dire des évangiles qui ne sont pas officiels, où des gens ont cru pouvoir reconstituer ce qu'ils croient avoir été. Apocryphe. Eh bien, c'est un évangile apocryphe qui, au deuxième siècle, c'est quand même intéressant que ce soit au deuxième siècle, il y a des évangiles apocryphes du 5e, 6e siècle, 7e siècle, parce que c'est très proche. Et cet évangile apocryphe parle du bœuf et de l'âne. Voilà pourquoi il y a un âne.
Et on a une explication pourquoi les animaux, deux siècles plus tard, vont rentrer en scène pour rester si longtemps dans notre histoire.
Écoutez, ça plaira beaucoup, cet évangile apocryphe. Tout le monde le lira et tout le monde sera enchanté. Eh bien, un grand saint, d'ailleurs, dira son bonheur plusieurs siècles après.
Saint François d'Assise, c'est à lui que vous pensez.
J'ai dit, j'allais dire, c'est formidable. Ouais. Mais enfin, s'il ne l'a pas dit, il l'a pensé.
Il y a d'autres animaux qui nous intéressent dans cette journée, enfin un peu plus tard, sont les rois mages.
Ce ne sont pas les animaux, les rois mages.
Non, ils viennent avec des dromadaires.
Des dromadaires.
Des chameaux, mais ce sont des dromadaires.
Alors oui. Alors, des rois mages. D'abord, je ne crois pas qu'on doive dire des rois mages. Ce sont des mages. Ils n'ont jamais été des rois. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien, d'abord, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs parce qu'ils ont lu dans la Bible qu'un Messie allait venir et que, regardant le ciel, ils ont vu des signes qu'ils ont interprétés. Et ces signes leur indiquaient que le fameux Messie était venu. Et ils se sont mis en route sur des dromadaires. Les dromadaires, vous savez, ont cette chance de boire très peu. Quand ils boivent, ils peuvent boire 300 litres d'un coup. Et ils partent ensemble, vont d'abord s'arrêter à Jérusalem, voir le roi Hérode, et lui disent ce qu'ils ont vu. Ça agace prodigieusement Hérode, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, allez le voir, ce Messie, et revenez m'en parler. Ils arriveront. Non pas dans la grotte, mais dans l'étable, verront Marie qui a accouché, et sachant que faire de son enfant, avec son mari, l'a enveloppé de l'ange et l'a placé dans l'auge. Voilà. Dans l'auge, c'est ça le berceau, c'est l'auge, voilà. Les mages apporteront, dit la tradition, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Mais ce sont des traditions que l'historien accepte avec plaisir, mais qui ne sont nullement garanties par l'histoire.
Oui, parce que dans l'histoire, on peut se demander si ces Juifs vont reconnaître finalement un Messie qui peut déstabiliser les habitudes. Et ils arrivent, comme vous l'indiquez, avec des cadeaux. Là, on sort un peu du domaine animalier, mais enfin...
Oui. Voilà. Je crois que ce qui peut permettre de croire qu'ils l'ont reconnu, c'est qu'ils se gardent bien de repartir chez Hérode et qu'ils rentrent directement chez eux.
Voilà. Et puis un dernier point, les dromadaires sont des animaux réservés quand même à des gens qui ont les moyens, hein, sont des animaux qui valent cher à l'époque.
Mais enfin, il y en a aussi beaucoup. Voilà.
Eh bien, en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël avec nos sincères remerciements pour... cette trace de l'histoire que vous nous avez rapportée. Merci infiniment, Alain Decaux.
Merci à vous.
Fresh to death and sick as kept can. vivre avec les bêtes. Tout bêtement. Tout bêtement. Tout bêtement, la philosophie. Elisabeth de Fontenay.
Bonjour Jean Baster.
Bonjour Elisabeth.
On raconte donc, comme Alain Decaux vient de nous le rappeler, que Jésus est né dans une étable que réchauffait le souffle d'un bœuf et d'un âne, et du reste il entrera à Jérusalem monté sur un âne. Bonne raison de s'interroger sur la manière dont les chrétiens se représentent et traitent les animaux. Je crois, Alain, que nous ne manquons pas à l'obligation de laïcité qui doit être celle d'une chaîne publique, en évoquant le christianisme, le jour de Noël, car nous ne parlons pas de vérité de foi, mais seulement d'histoire et de littérature. Vous êtes Jean Baster, un écrivain catholique, vous avez collaboré à la revue Esprit, vous avez publié de nombreux livres sur les animaux, écrits avec votre épouse Hélène, livres dans lesquels vous montrez que le christianisme aurait pu, pourra peut-être, avoir une pensée, une pratique des animaux plus bienveillante. Nous nous connaissons, vous et moi, depuis longtemps, nous avons beaucoup parlé ensemble, car nous sommes liés par notre compassion pour les animaux, mais vous êtes croyant, moi pas, et vous acceptez mal mon hypothèse selon laquelle, depuis que le Christ s'est offert en sacrifice comme l'agneau qui rachète les péchés du monde, les animaux n'ont plus d'existence dans la religion, sinon d'être de simples allégories, de simples symboles.
Eh bien, je dirais que imputer ou regretter, en tous les cas, que dans le christianisme il y ait comme une espèce d'hostilité ou d'allergie, je dirais, automatique ou foncière à l'égard des animaux, ça me paraît quand même tout à fait, c'est pas ce que vous dites, mais enfin, ce que certains pourraient soupçonner, ça me paraît tout à fait fantaisiste. Ce qui est vrai, c'est que l'histoire du christianisme, comme l'histoire de tout courant de pensée, est diverse et qu'il y a des courants, mais je crois qu'au contraire, la position fondamentale du christianisme est la position biblique, à savoir une amitié, un compagnonnage fondamentalement bienveillant avec l'animal.
Il faut quand même reconnaître, et vous l'avez reconnu vous-même, que les choses n'ont pas toujours été formidables pour les animaux dans l'histoire du christianisme et singulièrement dans l'histoire de l'Église. Je n'évoquerai que saint Augustin qui disait que les animaux ne peuvent pas souffrir parce qu'ils n'ont pas fauté dans le péché originel, ils ne sont pas partie prenante du péché originel, et que la souffrance est une conséquence du péché originel. Et donc, comme ils n'ont pas péché, ils ne doivent pas souffrir, et s'ils souffraient, ça voudrait dire que Dieu est injuste, ce qui est impossible. C'est un type de syllogisme, de raisonnement, qui montre quand même qu'une voie importante de l'Église, de la pensée chrétienne, a été très défavorable aux animaux.
Et la citation que vous faites, je ne la connaissais pas, saint Augustin, et je ne la dis pas si vous la donnez. Mais moi, je la trouve chez Malebranche. C'est exactement une citation de Malebranche, philosophe du XVIIe siècle, n'est-ce pas, chrétien ? Bon, mais peu importe que ça soit l'un ou l'autre, je crois que cette question est largement déformée, en somme, par une projection, une rétroprojection, en somme. On majore un fait, alors qui est absolument évident, éclatant et plus que regrettable, c'est que depuis 4 ou 5 siècles, depuis le développement de la culture moderne, il y a dans l'Église, en particulier, pas seulement catholique d'ailleurs, un repli sur l'homme, sur la vie intérieure de l'homme, et donc un mépris, enfin en tous les cas une indifférence, et pour ne pas dire un mépris de l'animal. Ça, c'est le fameux animal machine de Descartes, par exemple. Bon, alors que ça n'est pas surgi de rien, bien sûr, qu'à travers 15 siècles ou 16 siècles de christianisme avant, cette tendance existait déjà et a été exprimée, et on peut être tout à fait contre, ça je suis d'accord, mais ce qui est frappant, chez la plupart, en tous les cas, des représentants de la pensée chrétienne, et dans la mesure justement ils sont restés ancrés dans le terreau biblique, eh bien c'est une j'ose pas prononcer le mot fraternité en l'étendant à tous, parce que c'est seulement certains, comme François d'Assise bien entendu, qui l'ont employé, mais en tous les cas un compagnonnage, une amitié on peut dire, avec l'animal, et qui n'est pas seulement une amitié avec un symbole, qui est une amitié avec un compagnon de vie, que ce soit l'animal domestique, mais pas seulement l'animal domestique, quoi.
Nous allons venir à ce qu'il y a de positif dans le christianisme à ce sujet, mais je reviens un peu à la charge. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans le christianisme quelque chose de pas du tout chrétien et pas du tout judaïque, une tendance à dévaloriser la création, à la déclarer mauvaise ?
Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a toujours eu, et jusqu'à nos jours, mais alors ça remonte aux origines, en effet, pas seulement à Descartes, il y a toujours eu une tendance dans la pensée chrétienne, dans la mystique chrétienne d'ailleurs, néoplatonicienne, et dérivée même gravement vers un dualisme qui condamnait en somme la création, qui considérait que la création n'était pas bonne en somme. Je pense en effet que ce néoplatonisme qui idéalisait la réalité, en réalité, s'éloignait précisément de l'origine des racines fondamentales du christianisme et du Christ en particulier, qui sont des racines bibliques, qui sont des racines qui ne sont pas du tout anticréationnelles, contre la création. Une des premières paroles du Premier Testament, de la Bible, donc dans le Genèse, c'est « Dieu crée, n'est-ce pas, en 7 jours, bon, et il vit que cela était bon, et même le 7e jour, il vit que cela était très bon ». Donc il y a une affirmation fondamentale d'excellence en quelque sorte de la création. Et quand on parle de la création, ça ne veut pas dire seulement l'homme, ça veut dire toutes les créatures.
Jean, est-ce que le malheur des animaux ne vient pas du fait que le catholicisme est devenu cartésien, c'est-à-dire s'est rallié à la thèse de l'animal-machine?
Ça, je crois, bien sûr, il faut tout mettre sur le dos de ce malheureux Descartes.
Non,
mais c'est un fait, il est plus que symbolique, il est réel, quoi. Et Descartes était un catholique, un chrétien, un catholique fervent, c'était pas du tout...
Pourquoi est-ce que les catholiques se sont ralliés si massivement à Descartes et au mécanisme cartésien? C'est ça la question.
Ça, je pense, c'est une question anthropologique et théologique aussi, bien sûr, qui explique beaucoup de choses, une espèce d'opération de désincarnation du christianisme. C'est-à-dire d'éloignement de la chair, d'éloignement de la terre, d'éloignement du corps. J'ai eu déjà des symptômes dans les siècles précédents, c'est pas surgi là encore, je dis bien au XVIIe siècle. Parmi mes auteurs préférés, vous savez qu'il y a Charles Péguy. Et Péguy n'a pas seulement été un poète, il a été un grand penseur qui a contribué puissamment à dénoncer la désincarnation de l'Église, alors en l'espèce c'était l'Église catholique, puisqu'il était catholique, lui, de son temps. Et je crois que dans cette dénonciation de la désincarnation, eh bien, ça englobe aussi l'éloignement de l'animal, et l'indifférence, je répète, et même le mépris de l'animal, d'où individuellement, les chrétiens pouvaient être sensibles à la douleur d'un animal, mais collectivement, au fond, ça ne les intéressait pas.
Si l'histoire de l'Église ne compatit pas beaucoup à la souffrance animale, en revanche, les mystiques et des écrivains catholiques ont joué un très grand rôle de réhabilitation de l'animal et de compassion pour l'animal. Et vous avez écrit sur eux,
oui,
parlez-nous des mystiques.
Là d'ailleurs, je serai un petit peu réticent en ce qui concerne la distinction, non, mais l'opposition entre une pensée, l'intelligence de l'Église, et ces mystiques. Mais les mystiques font partie de l'Église.
Enfin.
Alors,
oui, bien sûr. Enfin,
peu importe, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, ils représentent aussi, et quand je parle de l'Église, je parle pas de l'institution, je parle du corps,
oui,
collectif.
Mais moi, je vous parle de l'institution.
Oui.
Ils ont quand même été assez hétérodoxes sur cette question des animaux.
Alors là, à cet égard, les mystiques ne sont pas en opposition avec la pensée officielle, si on peut dire, l'Église, pas du tout. Mais enfin, bon, ils ont eu quand même quelquefois quelques difficultés, mais pas sur la question des animaux, entre parenthèses. Oui. Donc, c'est vrai que dans l'Église et dans le christianisme, aussi bien chez les protestants, c'est la même chose. Je pense que ce qui a conservé, en somme, et continuer de faire vivre l'amitié avec les bêtes, la fraternité avec les bêtes. Bien sûr, il y a l'exemple de François d'Assise, mais François d'Assise, ça finit par m'agacer quelquefois, si j'ose dire, le cher François.
Oui, moi aussi. Et
qu'on le cite toujours, parce qu'il n'est pas du tout le seul. Il représente un immense courant, particulièrement au Moyen-Âge, à son époque. Il y a un certain nombre de grands mystiques de ce temps-là, qui étaient cisterciens, qui étaient dominicains, quelques-uns franciscains, disons que c'était un thème qui était quand même assez fréquent, quoi. Et alors, j'insisterai d'ailleurs sur le fait que d'une manière générale, et pas seulement au Moyen-Âge, les mystiques chrétiens qui ont été le plus sensibles et le plus proches de l'animal sont souvent été des mystiques féminines. C'est vrai, ce qui est une très bonne indication d'ailleurs.
Tout à fait. L'immortalité des animaux. Il y a eu un livre d'Eugène Drewermann qui n'est pas très bien vu en cours de Rome. C'est un prêtre qui a écrit donc ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce thème?
C'est-à-dire sur le thème, je suis tout à fait d'accord avec Drewermann. j'emprunte pas exactement le même cheminement personnel, de raisonnement personnel, mais j'ai toujours pensé, et je ne suis pas une autorité éminente pour solenniser mon propos, là, mais j'ai toujours pensé que l'éternité, non seulement des animaux, mais toute la création est promise à l'éternité, est promise à la résurrection. C'est dans saint Paul en particulier, il est explicitement dit, et ça a été plus ou moins répété, plus ou moins oublié, à travers les siècles, par l'Église, que le Christ, et Dieu donc selon la doctrine chrétienne, est venu sur la terre, s'est incarné pour sauver toute chose, pas seulement pour sauver l'homme. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité, ça c'est les termes du dogme, n'est-ce pas, pour que toute chose retrouve la création originelle, si vous voulez, retrouve l'éternité. Alors ça a quand même été sérieusement, pas oublié, mais enfin mis de côté pour une grande part à travers les siècles, en ce qui concerne les animaux en particulier.
C'est le moment, Jean Baster, de nous lire ces versets de l'Épître aux Romains, saint Paul, que nous aimons tant l'un et l'autre.
Oui, et qui a d'ailleurs turlupiné, qui a été, vous parliez de saint Augustin, mais je pense à saint Thomas en particulier. Mais enfin, il y a des tas de penseurs chrétiens qui ont été extrêmement embêtés par ce texte-là et qui ont essayé à toute force de le minoriser. Et alors, le voilà, car il est absolument d'une limpidité parfaite. Je vous le lis. La création tout entière crie sa souffrance. Elle a été livrée au pouvoir du néant. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Donc la création gémit dans l'attente que les enfants de Dieu, c'est-à-dire les hommes, n'est-ce pas, ressuscitent, parce que ça correspondra, ça entraînera sa propre résurrection. Là, c'est un texte, je vous dis, qui est absolument fondamental et qui a été une bienheureuse épine dans la sensibilité théologique de pas mal de penseurs chrétiens.
Juste encore une question. Vous parlez quelquefois du Christ vert.
Oui, ça, c'est pour, justement, c'est une manière que j'emprunte d'ailleurs à mon vieux fond socialiste libertaire du 19e siècle. 48 tard, je dis bien pas 68 tard, mais 48 tard, 1848, où l'on parlait du Christ ouvrier. Bien moi, je parle du Christ vert au sens où je crois que la plénitude du Christ est atteinte quand on retrouve et quand on développe beaucoup plus que ça n'a pu être, que ça n'a été fait jusqu'à présent, sa dimension cosmique, c'est-à-dire le Christ est une réalité qui assume tout l'univers. Et alors, dans ce sens-là, bien entendu, il y a une dimension humainement écologique. Ça,
et vous avez,
ça va beaucoup plus loin.
Vous avez le sentiment que la papauté évolue dans le bon sens à ce sujet?
Oui, alors là, comment dire, je dirais que c'est une chose qui est relativement peu connue. Un des plus grands écologistes de la fin du XXe siècle, c'est Jean-Paul II. Et non pas du tout qu'il avait des idées particulières sur le réchauffement climatique, mais il a pris en charge véritablement, d'ailleurs dans une inspiration explicitement paulinienne, empruntée à saint Paul, et franciscaine, il a vraiment pris en charge cette dimension universelle, cosmique, créationnelle du Christ. Et c'est vrai que Benoît XVI est tout à fait dans la même ligne sur cette question-là. Les deux derniers papes sont en avance, je dirais, sur pas mal de leurs fidèles.
Je vous remercie, Jean Baster.
Vivre avec les bêtes.
Tous les dimanches sur France Inter, à partir de 15h. Élisabeth de Fontenay, Alain Bougrain-Dubourg.
Alors que la France s'embrasait en mai 68, un peintre corrézien, Raymond Boissy, était tourneboulé par le sort des ânes. Il faut réhabiliter l'espèce asine et éviter sa disparition, clamait-il à qui voulait bien l'écouter. Il sera entendu. Il y naîtra l'ADADA, l'Association Nationale de Défense des Ânes. Aujourd'hui, c'est Marinette Panabière qui, après 30 ans de comptabilité chez Alcatel, est désormais la présidente d'ADADA, Marinette. Marinette, elle avait trois espoirs dans sa vie, avoir une coiffure rasta, visiter les prisons et avoir un âne. Bonjour Marinette et merci d'être parmi nous. Alors, vos vœux, vous les avez exaucés?
Oui, tous les trois.
Ouais, vous n'avez pas la coiffure rasta là, hein?
Non, non, ça y est, c'est terminé la coiffure rasta.
Et les prisons?
Les prisons aussi.
Vous vouliez aider les détenus?
Oui, oui, tout à fait. Aller les voir et les aider.
Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui...
Ce sont les ânes.
Voilà, dont on a déjà beaucoup parlé, hein, avec Alain Decaux notamment. Pourquoi cette passion pour l'âne?
Bien, parce que mon grand-père avait un âne et j'ai toujours aimé les ânes. Ce sont des animaux très, très intelligents qui m'ont toujours passionné.
Alors, on va parler de leur intelligence, mais au début, comme je l'indiquais, c'est la race qui a conduit à la création de votre association, davantage que le mauvais traitement?
Non, au début, c'était la réhabilitation de l'âne, quelle que soit l'âne, quelle que soit la race et quelle que soit l'âne. C'était bien de recréer des races pour le patrimoine des régions, mais c'était bien aussi de penser aux ânes communs, à tous les ânes.
Bon, vous vouliez qu'on réhabilite cet animal?
L'âne.
Alors, si je vous demandais de le faire, là, en quelques secondes, là, comment on peut, parce qu'il est têtu, il n'en fait qu'à sa tête, etc. Comment on réhabilite l'âne?
L'âne n'est pas têtu du tout. On dit qu'il est têtu, c'est parce qu'il réfléchit. Quand un âne ne veut pas faire quelque chose, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous lui demandez. Et quand il comprend, il le fait parfaitement, sans hésiter. Mais tant qu'il ne comprend pas, vous n'en ferez rien du tout. Et un âne est très intelligent. Au Moyen-Âge, on avait créé le bonnet d'âne. Le bonnet d'âne était fait pour rendre les petits clercs aussi intelligents que l'âne, leur donner la sagesse et la réflexion de l'âne.
Une invention, là, de vos amis.
Pas du tout.
Mais ça a toujours été péjoratif, le bonnet d'âne.
Oui, et ça a été déformé par l'école de Jules Ferry.
Encore lui, là, il en Bon, alors, ces ânes intelligents, ils peuvent comprendre des ordres particuliers. Comment, par exemple, vous le situez par rapport au cheval?
Par rapport au cheval, les Américains donnent à un enfant, à l'âne, 28 mois d'intelligence par rapport à un enfant. Et au cheval, ils en donnent 15.
Ah oui.
Donc, si vous voulez, ça fait quand même deux fois plus intelligent qu'un cheval.
Ouais. Il a pourtant une dépendance, cet âne. Pas question qu'il reste seul.
Pas plus que le cheval. Un cheval ne reste pas seul non plus. Tous les animaux n'aiment pas être seuls. Donc l'âne, il marche à l'affectif et ce sont des animaux de troupeau. Il a besoin d'être en compagnie. Pour moi, la première des maltraitances, c'est de mettre un âne tout seul dans un champ, de le prendre pour une tondeuse et de le laisser sans affection et sans compagnie.
Et c'est malheureusement ce qui se passe, bien souvent.
Souvent. C'est-à-dire qu'on prend un âne, parce que c'est mignon, c'est petit, c'est une petite peluche. Et puis après, il faut s'en occuper, il faut les trier, il faut lui donner à manger, il faut nettoyer les abris, il faut mettre de l'eau fraîche. Donc les gens s'en occupent pendant quelques temps et puis après, on se lasse et l'âne est tout seul.
Et là, il est capable de dépérir vraiment?
Il est capable de déprimer, il est capable de devenir agressif. C'est pas du tout le tempérament de l'âne. L'âne a besoin de compagnie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'en occuper, aller le voir plusieurs fois par jour. Et si vous voulez, également, on peut le promener en longe, on peut faire des tas de choses avec un âne.
Alors, il n'a pas forcément besoin, comme compagnon, d'un autre âne.
C'est préférable.
C'est préférable
un autre âne. Vous pouvez lui mettre une chèvre ou une brebis, mais c'est pas la même chose. Il vaut mieux deux ânes.
Alors, est-ce qu'on peut parler de la communication? Parce qu'ils s'expriment, Dieu sait, on les entend très loin, beaucoup plus loin qu'un cheval, je crois. Qu'est-ce qu'ils nous disent, là?
Bien, soit il vous appelle parce qu'il s'ennuie, soit il a senti une ânesse plus loin ou un autre âne, donc il l'appelle, soit il s'ennuie et il braie, c'est ça, quand il s'ennuie. Ou il est content parce qu'il vous entend, ou il entend votre voiture au loin, ou il entend votre voix, donc il braie pour manifester.
Vous avez eu beaucoup d'ânes qui vous sont passées entre les mains.
Dans notre refuge, nous en avons 285.
Ah oui, actuellement?
Actuellement.
C'est énorme. Bon, on rappelle où il est, le refuge?
Le refuge est Anvers, dans le Puy-de-Dôme.
Et ça ressemble à quoi, alors?
Nous avons 23 prés sur 46 kilomètres.
C'est énorme.
Parce que 285 ânes ne peuvent pas être tous ensemble. C'est-à-dire tous nos mâles sont castrés et nos femelles ne sont pas destinées à la reproduction.
Et est-ce qu'il y a une singularité chez l'individu? C'est-à-dire, vous trouvez vraiment des âmes qui ont un caractère qu'on ne retrouve pas chez l'autre?
Ah, tout à fait, oui.
Par exemple, bien sûr.
Vous avez des âmes qui sont plus affectueux que d'autres. Vous avez des âmes qui sont un petit peu solitaires, qui sont en petit groupe. On en a un, par exemple, qui ne supporte pas les autres mâles hongres. Donc, il est tout seul avec des femelles, parce qu'il déprime s'il est avec d'autres mâles.
Alors, il faut percevoir tout ça. Et vous arrivez à les replacer, vos animaux ?
Alors, on a deux solutions. On fait un contrat d'adoption. C'est un petit peu le même principe que la SPA. Donc, l'adoptant n'a pas le droit de le vendre ni de le placer. Nous avons un droit de visite. Autrement, il y a le système de parrainage. Donc, les ânes malades ou les ânes trop âgés, on les fait parrainer et ils restent au refuge. Et les parrains et marraines peuvent venir les voir, venir passer leurs vacances, s'occuper de leur âne.
Et tard, il y a des gens qui viennent voir leur...
Il y a des gens qui viennent de toute la France voir leurs ânes, oui. Enfin, l'âne qui parraine.
Alors, je voudrais souligner, puisqu'on parle de financement, que vous n'êtes absolument pas subventionné.
Pas du tout. On n'a aucune subvention.
Comment ça se fait ?
Nous sommes une association nationale, donc on n'a pas d'aide régionale. On n'a pas d'aide du tout. Donc, nous sommes aidés par la Fondation Brigitte Bardot, qui est marraine de notre association, et par également 30 millions d'amis et l'association Bourdon. Et nous faisons également des lotos, des souscriptions pour pouvoir nourrir nos ânes.
Ouais. Et là, cet été, vous avez eu des difficultés, hein, comme les éleveurs, il n'y avait pas de foin.
Il n'y a pas de foin. Notre gros souci, cet hiver, c'est le foin. Parce que le peu de foin que l'on trouve, il est deux ou trois fois plus cher. Mmh. Et dans notre région, la région a été sinistrée, il n'y a pas du tout de foin.
Rustique, un âne ?
C'est rustique, mais un âne est très sensible des poumons. Hein. Il faut qu'il ait un abri. Et il craint l'humidité. Il a un abri où il puisse entrer et sortir comme il a envie. Mais il ne peut pas rester sous la pluie sans pouvoir entrer au sec pour se réchauffer. Il peut avoir des problèmes de poumons.
Il y a une chose, quand on voit les animaux maltraités, les ânes, parfois les chevaux, on voit les sabots complètement retournés, mais de façon incroyable. Qu'est-ce qui se passe pour en arriver là ?
Ça, c'est une forme de maltraitance aussi. C'est-à-dire que les ânes doivent être parés 3 ou 4 fois par an.
Parés, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire tailler les pieds, couper la corne. Donc, c'est le maréchal Ferrand qui, tous les 3 ou 4 mois, doit procéder à ce parage-là. Mm-hmm. Et ça, c'est une forme de maltraitance parce que ça déforme les articulations et après l'âne ne peut plus marcher ou marche difficilement.
Dans les ânes abandonnés, je vois que c'est un peu comme les chiens et les chats, on voit des ânes de race, il y a des baudets du Poitou, ça vaut combien ? 2000 euros,
Baudet,
au moins 2-3 000 euros, on abandonne un animal de ce prix.
Bien sûr, nous en avons 6 dans notre refuge.
Baudets du Poitou, oui. C'est eux qui ont les rastas.
Voilà, qui ont les rastas.
Comme vous vouliez, vous.
Les longs poils, oui.
Oui. Et ça vit combien de temps un âne ?
Un âne peut vivre 40 ans, s'il est bien traité, s'il est bien entretenu.
Est-ce qu'on peut dire qu'en France, maintenant, grâce à des associations comme la vôtre, aux haras nationaux, qui ont beaucoup fait pour la préservation des races, quand même, il faut le rappeler, on a atteint maintenant un niveau de cohabitation avec les ânes qui est satisfaisant par rapport à d'autres pays ?
Oh oui, il y a beaucoup d'ânes en France maintenant. Oui, tout à fait. Mais il y en a même trop, puisque les gens les abandonnent. C'est comme les autres animaux.
Oui. Combien ça vaut un âne ?
Si c'est un âne de race, le prix est beaucoup plus élevé. Si c'est un âne commun, je ne sais plus, c'est 400, 500 euros peut-être, un âne commun. Mais les ânes de race, ça peut aller de 1000 euros, 2000 euros.
Alors, je voulais qu'on termine avec un horizon qui est moins heureux, peut-être. C'est notamment en Afrique du Nord, où moi, j'ai vu en Égypte. Alors, Dieu sait s'il y a des problèmes à caractère humain, enfin, des souffrances humaines, on le sait, actuellement. Mais il y a un traitement à l'égard de ces animaux qui est quand même redoutable. Est-ce que vous intervenez également avec des associations internationales pour le mieux-être des ânes ?
Oui, tout à fait. On intervient d'ailleurs dans toute la France pour les maltraitances de toute la France et également au Maroc, en Tunisie, quand il y a des animaux qui sont maltraités. Mais paradoxalement, c'est surtout les animaux qui sont maltraités, c'est dans les villes. Mais dans les campagnes, même dans ces pays, au Maroc, c'est leur outil de travail. Donc ils en prennent quand même un petit peu plus soin que ceux qui sont dans les villes et qui transportent des touristes, vous voyez, des choses comme ça. Là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment malheureux.
Marinette, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour les ânes en ce jour de Noël ?
Que les propriétaires d'ânes, les maîtres des ânes, ne les abandonnent pas, s'occupent d'eux et ne les laissent pas dans un pré tout seul, malheureux. Vraiment que les gens s'en occupent et qu'il y ait beaucoup moins de naissances des petits ânes qui après sont voués à la boucherie.
Bon, ben on espère que vous serez entendus. En tout cas, on vous dit ici dans cette émission toute notre admiration à l'égard de votre engagement pour l'association Adada. Merci Marinette.
Merci beaucoup.
On disait le sud, comme on dit va-t'en, comme les rêves absurdes, où le soleil n'existe pas. Pour les
des gens comme toi et moi. On fuyait le froid pour les îles éparses, un peu comme si là-bas l'été durait plus de trois mois. Du dormeur du Val à la rue Mouffetard, j'en ai fait des mâles pour te dire au revoir, pour te dire au revoir. J'ai violé les frontières, oublié la loi. Dieu tous ces kilomètres pour te dire au revoir, pour te dire au revoir. Entouré de murs, le silence se fissure, plus soir qu'en peinture. Les tournesols d'autrefois.
Vivre avec les bêtes.
L'actualité.
En ce jour de Noël, nous n'avons retenu que les bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles donc pour les animaux transportés dans l'Union européenne. La Commission européenne vient en effet de rendre un rapport sur les conditions des animaux déplacés et s'apprête à renforcer la réglementation. Elle propose ainsi une série d'engagements qui visent à développer les contrôles effectués, les actions favorisant le bien-être, l'harmonisation des réglementations et la sensibilisation des professionnels. Notons cependant qu'il n'y a pas d'aménagement sur les routes pour permettre aux animaux de se reposer lors des transports dépassant les 8 heures.
Bonne nouvelle pour la Rémanta, cette géante approchant les 1,4 tonnes et mesurant près de 7 mètres, restait bien fragile face aux captures destinées à la confection de produits s'inscrivant dans la médecine chinoise. De même, elle était victime de pêches accidentelles. Résultat, les prises des Rémanta ont plus que triplé en quelques années, passant de 900 tonnes en 2000 à 3300 tonnes en 2007, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et la Pêche. Les 116 États de la Convention de Bonn, réunis en Norvège, viennent de décréter un coup d'arrêt au déclin. La Rémanta est désormais inscrite sur la liste des espèces protégées.
Bonne nouvelle pour la science participative. Ça marche. C'est ce que déclare l'Office pour les insectes et leur environnement, qui avait lancé en 2011 une grande enquête sur le lucane cerf-volant, ce coléoptère adepte des vieux arbres et des troncs morts. L'idée consistait à mobiliser les observateurs pour évaluer la présence du fameux lucane sur le territoire. Résultat, plus de 900 observateurs sont partis sur le terrain pour apporter quelque 2000 données. 4 départements restent cependant vides d'informations, l'Aisne, le Nord, les Vosges et le territoire de Belfort. Conclusion, soit le lucane est absent de ces territoires, soit la mobilisation n'a pas été assez forte. Quoi qu'il en soit, l'opération sera relancée en 2012 et les départements en question seront tout particulièrement sollicités.
Bonne nouvelle pour la méduse hydrozoaire qui serait le seul animal au monde à avoir découvert le secret de la jeunesse éternelle. Les scientifiques ont en effet constaté qu'elle avait la possibilité, passé un certain stade, de régénérer sa structure entière afin de revenir à l'état de polype, c'est-à-dire de sa première phase de vie. Notons que certains animaux ont une faculté comparable, notamment les lézards qui peuvent générer une nouvelle queue, mais aucune autre que la fameuse méduse ne peut prétendre à l'immortalité. Naturellement, les scientifiques en question veulent savoir si l'on pourrait s'inspirer du phénomène pour servir la longévité humaine. Aujourd'hui, contrairement à l'habitude, ce n'est pas vous, mais l'équipe de Vivre avec les Bêtes qui va poser la question de la semaine. En effet, en cette période de cadeaux, nous nous sommes demandé si les animaux aussi se faisaient des présents. Et pour répondre à cette question, il nous fallait un spécialiste du monde animal. Robert Barbeau, pionnier de la notion de biodiversité en France, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et auteur de multiples publications, a accepté de nous éclairer. Robert Barbeau, merci d'être dans le studio aujourd'hui. Alors, les animaux se font-ils eux aussi des cadeaux ?
Eh bien, la pratique du don ou de l'échange est quelque chose d'important dans tout le règne animal, et l'homme en est un exemple, plus exemplaire que d'autres. Mais quand les chercheurs se penchent sur le comportement animal, ils s'aperçoivent que dans de nombreux groupes, il y a une pratique de don. Alors, en général, au départ, c'est quand même une relation d'échange alimentaire ou de don alimentaire. C'est vraiment... Mais ce qu'il faut voir, quand même, c'est... Dans certains cas, ça devient symbolique, c'est-à-dire on peut donner quelque chose qui n'est plus un objet alimentaire. Donc il y a une dimension symbolique comme un cadeau, un échange entre un mâle et une femelle ou réciproquement entre une femelle et un mâle. Et ça existe aussi bien dans le monde des insectes que dans le monde des oiseaux et des primates. Donc c'est assez répandu. Et souvent, ou la plupart du temps, c'est entre individus qui appartiennent à la famille, mais dans des groupes plus évolués, comme chez les primates, ça peut se pratiquer entre individus qui appartiennent à la même société, mais qui ne sont pas nécessairement parents-enfants ou frères ou sœurs, chez les chimpanzés, par exemple. Et c'est très connu.
Alors, on a tous vu ces images de manchots qui arrivent et qui donnent un petit caillou à l'autre. On ne sait pas si c'est le mâle ou la femelle, du reste. À quoi ça sert, vous savez ?
Mais je pense que c'est très répandu chez les oiseaux marins. Probablement qu'au départ, historiquement, ça devait être un apport de nourriture. Et puis, dans certains cas, il y a une substitution entre le don de nourriture et une algue ou un objet. Et alors, dans un groupe qui est tout à fait intéressant et fascinant, qui est celui des araignées, en ce moment, il y a une très belle exposition
au Jardin
des Plantes sur les araignées. Alors là, le cadeau, c'est vraiment un cadeau, c'est-à-dire que chez certaines espèces, par exemple chez la pisore admirable, qui est une jolie araignée très fréquente en Europe et en France, le mâle, quand il a besoin de s'accoupler, il prend le soin d'emballer un insecte avec un joli paquetage de soie, une jolie soie brillante, et c'est quand même une qualité des araignées de produire une soie de très grande qualité, et il utilise cette offre pour approcher de la femelle, pour l'encourager à accepter son approche, et en même temps avec la crainte que éventuellement elle pourrait tenter d'apaiser sa faim en mangeant un petit morceau. Voilà. Donc le mâle s'approche avec son cadeau présenté c'est pas les mandibules, c'est ce qu'on appelle les chélicères chez les araignées. C'est une pince assez forte qui sert à consommer la nourriture et à pomper la chair. Donc l'araignée mâle offre son emballage à la femelle. Il reste très immobile et il attend qu'elle occupe ses chélicères en s'emparant de la proie. Et quand elle a les chélicères occupés, d'abord, ça veut dire qu'elle va accepter l'accouplement et ça lui permet de s'accoupler. Alors, les chercheurs ont montré que dans certains cas, il y a une espèce de triche. C'est-à-dire que c'est pas toujours un insecte qui est à l'intérieur du paquet.
Ouais, ouais.
Ça peut être un débris. C'est la même chose que pour les oiseaux. Et il est soigneusement emballé. Plus ils ont montré que plus la soie est brillante, plus elle a un effet attractif et plus la femelle accepte volontiers les avances du mâle. Mais quand même, ils ont montré aussi que quand il y a une vraie proie à l'intérieur, elle est occupée plus longtemps et la durée de l'accouplement peut être plus longue et donc plus efficace.
Ouais. Si ce sont des cadeaux de cette nature, on comprend pourquoi le couple ne dure pas. Effectivement.
Voilà, mais chez les araignées, souvent, une fois qu'ils ont pratiqué la reproduction, les mâles ne vivent plus très longtemps, qu'ils soient consommés ou pas. Et s'ils sont consommés, finalement, c'est utile, ça profite à la descendance qui sera de meilleure qualité.
En conclusion, Robert Barbeau, est-ce qu'on peut dire que certains animaux font des cadeaux gratuitement ?
Moi, je pense qu'il faut oser. Dans le cas de l'approche scientifique des animaux, à force de vouloir être hyper rigoureux, on finit par leur retirer toute sensibilité et toute existence réelle. Et en réalité, quand on connaît les animaux, si on ne se pique pas de faire de la science, on sait qu'il se passe des choses entre les animaux et nous, et entre les différents individus animaux. Donc je pense que dans certains cas, il y a des actes gratuits.
Merci de ce que vous venez de dire.
Merci Robert Barbeau, vous êtes le bienvenu. En permanence dans l'émission, je rappelle que vous avez sorti avec Jacques Weber au Seuil Le Vivant, quelle entreprise. Voilà, fin de notre émission Vivre avec les bêtes, qui nous a permis d'entendre Renan Luce et Michel Legrand, Lana Del Rey et Bertrand Soulier. Elisabeth de Fontenay, le sommaire de la semaine prochaine.
Eh bien là, nous recevrons Jean-François Noblet qui nous parlera de l'association Pic Vert. Et Guilhem Le Saffre, président du CORIF, qui nous expliquera le rapport qui existe entre la grive et le gui. Quant à moi, je recevrai l'actrice Annie Dupéret, qui vient de faire paraître un livre sur ces animaux.
Merci, rendez-vous donc dimanche prochain dans Vivre avec les bêtes, 15h-16h sur France Inter. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Virginie Leduo, Thierry Dupin, Patrick Henry et Philippe Carré à Grenoble. Elle a été réalisée évidemment par Catherine Rosier. En attendant de nous retrouver, vous pouvez toujours laisser vos messages sur notre boîte vocale 01 56 40 28 10 ou sur franceinter.fr. Après le flash de 16h, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Duncan pour Les femmes, toute une histoire. Aujourd'hui, rencontre entre une historienne et un gynécologue sur le thème l'accouchement et la naissance. Bon Noël à tous et à l'année prochaine.